La planèse du jazz, Laurent et Pascal Verdoux.
Bonjour à tous.
Bonsoir.
Eh bien, étant donné l'ambiance actuelle dans ce que nous pouvons voir aux informations, à la télévision ou ailleurs, nous avons décidé, pour nous changer les idées, de vous faire une émission sur l'élégance.
Oui, comme ça, on va parler de beauté, de brillant, de joie. Ça va être chouette.
Ça va nous changer. En jazz, il y a des gens qui sont élégants. Et on aime beaucoup les gens élégants.
Et oui, l'élégance pour les Noirs, il y a de nombreuses années naturellement, ça a été la première marque de leur indépendance, si on peut dire. Ils étaient bien habillés, ça se voyait, et on pouvait comme ça les traiter de messieurs ou de dames.
Il n'y a qu'à voir les films d'actualité tournés, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même, tournés dans le Harlem de l'époque, Harlem Renaissance, pour comprendre que c'est une vraie conquête, l'élégance.
Les gens étaient tirés à quatre épingles, c'était incroyable. Enfants et parents, hein, tout le monde.
Et naturellement, dans le jazz, ceux qui étaient tirés à quatre épingles en profitaient largement et on les appelait...
Pour les hommes, on les appelait des alligators.
Et ils s'interpellaient en disant « Hi, Gator !» Et il y a eu des alligators très célèbres dans la musique de jazz.
Et ça se comprend un peu parce que l'alligator, d'abord, on le craint un peu, ensuite, il a une belle peau... qui vaut très très cher, n'est-ce pas? Et en même temps, il y a un côté assez impressionnant quand même.
Il y a un côté sûr de soi aussi qu'on trouve très bien dans les alligators du dessin animé Fantasia, dans une des séquences qui est très drôle. Et on comprend très bien en voyant cette séquence ce que veut dire dans l'esprit des gens qui employaient le mot d'alligator. Il y a eu plusieurs morceaux sur les alligators dans le jazz. Le plus connu s'appelle... Alligator's Crawl.
Crawl, ça veut dire la nage de l'alligator.
Et en fait, c'était d'ailleurs également une danse, le Alligator Crawl. Et alors, j'aime beaucoup ce disque parce qu'en fait, pour ne rien te cacher, mon père m'a légué sa discothèque qui se composait uniquement et exclusivement de deux 78 tours.
Oh, tu as fait une affaire.
Fantastique. Et un de ces 78 tours était de Fats Waller et sur la première face,
il y avait
Alligator's Crawl. Thank you. grand souvenir du bon docteur, éminent neurologue qui jouait le blues au piano et qui était un sacré alligator lui-même. D'ailleurs.
Fats lui-même, que vous avez entendu, pouvait difficilement passer pour un alligator, vu son tour de taille.
Ah, quand même, j'ai des photos de lui, bien sapé. Hein.
Mais par contre, voilà, il adorait être bien habillé. Et n'oublions pas le chapeau melon.
Le chapeau melon.
Qui était un peu son signe distinctif, qu'il mettait coquinement totalement sur le côté.
Il y a eu une grosse mode de chapeau melon à cette époque. C'est
oui.
Vrai. Et c'est les pianistes de Harlem qui l'ont lancé. Car le lion avait encore le chapeau melon à ses concerts des années 70, Willie Smith le lion.
C'est vrai, hein, c'est vrai, nous l'avons vu.
Nous qui vous parlons, nous avons vu le melon du lion.
Absolument.
Alors naturellement, cet alligator suppose non pas une alligatrice, mais son équivalent féminin. Alors dans le jazz, l'équivalent féminin d'alligator a un drôle de nom.
Ouais, c'est Bearcat. Bear, c'est-à-dire c'est le bear,
c'est l'ours.
L'ours. Et Kat, c'est le chat.
C'est le chat.
Alors, c'est la femme chat, ours, on ne sait pas trop bien. En tous les cas, c'est l'équivalent. C'est la femme très élégante, soignée, à la pointe de la mode.
Mais vous allez voir tout à l'heure qu'elle n'est pas forcément physiquement comme on l'imagine. En tout cas, Miles Lewis, le pianiste de Boogie, a parfaitement illustré la Bearcat et également sa pétulance au travers d'un morceau qui s'appelle
Bearcat Shuffle.
On peut s'attarder un peu sur le personnage tout de même, car naturellement, la Bearcat est à quelques manières.
Oui, elle est même tellement contente d'elle-même qu'elle en devient un peu chichiteuse.
Ouais, c'est une grande faiseuse de chichi quand même. Et ça, les jazzmen l'ont très bien perçu. Il y en a un qui avait la dent particulièrement dure par rapport à ce genre de comportement, c'était Willie Smith le lion, qui a justement composé un morceau qui s'appelle...
Fascine, ce qui veut dire « Oh, la bonne femme qui en fait des tonnes, qui est une chigiteuse, une empoisonneuse. »
Voilà. Alors, fascine, ça veut dire « en faisant son cinéma, quoi, finalement. »
Voilà.
Ce qui est drôle, c'est que quelques années plus tôt, un autre morceau là-dessus avait été composé par Jelly Roll Morton, mais là, il avait une cible particulière parce que le morceau s'appelle « Fussy Mabel ».
Oui, je pense que Mabel n'était pas très en odeur de sainteté.
Je crois qu'elle a dû prodigieusement enquiquiner ce brave Jelly Roll qui lui a donc dédié un morceau exprès pour elle. Mais ce fossile est très chouette. Alors là, nous le confions à Ralph Sutton. Ralph Sutton était à l'époque un jeune pianiste. C'est le seul élève qu'on ait connu. Il a eu des disciples, mais un vrai élève qui a travaillé avec lui. C'est le seul élève qu'on ait connu à Willie Smith le Lion. Et ce Ralph Sutton était un fabuleux pianiste qui est d'ailleurs venu en France dans les années 80 et qu'on a eu le bonheur d'entendre et plusieurs fois. C'est un type, en plus d'une gentillesse, d'une modestie extraordinaire, et vraiment un très grand pianiste.
C'est pas un fussing man.
Ah, pas du tout. Non. Alors là, lui, le fussing, il aimait beaucoup jouer fussing parce que justement, lui, c'était exactement le contraire. Voici Ralph Sutton dans ses œuvres. Naturellement, il y a une tenue numéro 1 pour aller dans le monde. Alors que met un alligator ? Avec quoi s'habille-t-il pour aller dans le monde ?
Quand il veut être le plus beau, il met un smoking, naturellement.
Mais alors, chose bizarre, nous avons un mot anglais pour désigner ce vêtement. Mais en Amérique, c'est pas ce nom-là qui a prévalu.
C'est un drôle de nom.
Ouais, ça s'appelle pas comme ça.
Ça s'appelle tuxedo.
Voilà, le smoking s'appelle le tuxedo. Tu sais pourquoi ?
Eh bien, à vrai dire, je sais parce qu'on a cherché ensemble, ça nous a quand même un peu grigné cette histoire-là.
Alors, on se demandait d'où venait ce nom.
Ce drôle de nom.
Figurez-vous qu'à côté de New York, il y a un lac qui s'appelle le lac Tuxedo. Alors peut-être ça vient d'une tribu indienne qui a été passée à la trappe comme tant d'autres à l'époque. En tout cas, il y a un village qui s'est créé au bord de ce lac qui s'appelle Tuxedo Park.
Voilà.
Et alors, il s'est créé à côté de ce village une énorme résidence, une sorte de club pour milliardaires qui s'appelait le Tuxedo Park Résidentiel, quelque chose comme ça. Et un beau jour, en 1880 quelque chose, le prince de Galles, qui était toujours à la dernière mode, est arrivé là.
Et il est arrivé habillé d'une façon qui a absolument ébloui tous les milliardaires américains qui étaient là. Classe, le gars.
Ah, classe. C'est-à-dire qu'il avait voulu marquer le coup en invitant dans ce club ultra chic un milliardaire américain qui s'appelait James Potter, lequel en avait invité d'autres. Enfin bref, tout ce petit monde s'est trouvé confronté à un prince de Galles qui portait sur lui le tout premier des smokings.
Et ça les a donc tellement impressionnés que depuis, ils se sont tous habillés avec ça.
Et ils l'ont appelé, en raison de l'endroit où ça s'est passé,
un tuxedo.
un tuxedo. Alors le mot s'est totalement répandu dans toute l'Amérique du Nord, car on retrouve très peu de temps après, à la Nouvelle-Orléans, le Tuxedo Brass Band, orchestre de rue pour les grandes cérémonies. Pour eux, le tuxedo était juste une référence vestimentaire verbale, parce qu'ils étaient habillés d'uniformes absolument époustouflants, vraiment avec des képis à panache, enfin des costumes à brandebourgs, enfin c'était absolument...
Oui, c'était pas la classe totale.
Mais de cet orchestre, de ce brass band, est né un autre orchestre dirigé par Oscar Papa Célestin. Tout ça, c'était des Noirs ou des Créoles, hein, qui s'est appelé l'Original Tuxedo Jazz Orchestra. Là, il ne voulait pas être copié. Original Tuxedo Jazz Orchestra.
Ah bon, ah bon.
Et naturellement, l'indicatif de cet orchestre était...
Tuxedo Rag, qu'on va vous passer.
Tuxedo Rag, qu'ils ont immédiatement appelé Original Tuxedo Rag. Pour qu'on ne confonde pas. Il faut savoir que dans cet orchestre, il jouait à deux trompettes et on peut apprécier à la fin du morceau la manière dont Papa Célestin se détache en première trompette, tandis que ce second trompette continue à mener l'ensemble de manière plus classique. C'est très intéressant comme manière de voir et c'est vraiment très dynamique. Tuxedo Rag.
Maintenant, vous parlez d'un autre tuxedo, c'est Tuxedo Junction. Alors, c'est un carrefour d'une ville qui s'appelle Hensley, qui est une banlieue de Birmingham, mais Birmingham, pas en Angleterre, mais en Alabama.
Et Birmingham est célèbre pour ses émeutes raciales. Il y en a eu toute une série. C'est une ville redoutable sur ce plan-là. Je ne sais pas très bien ce qui s'est passé à ce carrefour de l'Alabama. Mais toujours est-il que l'expression « Tuxedo Junction » est devenue une sorte de terme générique pour tout endroit où se retrouvent les alligators. Tu sais, un dancing, un bar, quelque chose, à telle ou telle, dans telle ou telle ville, hein, peu importe. Et naturellement, je pense qu'à Harlem, c'était largement le Savoy Ballroom ou d'autres endroits. Toujours est-il que l'orchestre de Erskine Hawkins, qui justement jouait beaucoup au Savoy Ballroom, a fait son indicatif d'un morceau qu'ils ont appelé Tuxedo Junction. Et c'est un morceau qui est devenu très connu. C'est un standard du jazz vraiment très connu. Thank you.
Et bien maintenant qu'on vous a parlé des vêtements, on n'a pas encore fini d'ailleurs, on va quand même vous parler de l'allure générale du corps, n'est-ce pas ? Ces messieurs et ces dames sont très attentifs à l'allure générale. Et alors il y a une sorte de consensus, surtout à une époque plus ancienne, qui consiste à dire les hommes préfèrent les grosses et les femmes préfèrent les hommes minces.
Oui, cet attrait pour les femmes plantureuses est assez récurrent dans beaucoup de chansons de blues en particulier. Ces messieurs, ils les préfèrent confortables.
Apparemment.
Il n'y a aucun doute. Et par contre, dans les mêmes paroles de chansons de blues dites par des femmes, c'est le contraire.
Ah oui, le grand mince, à la limite du maigre, ça a l'air de leur plaire énormément. Hein.
On retrouve ça dans le fameux film de Minnelli, le tout premier qu'il ait fait, qui s'appelait Cabin in the Sky, où Ethel Waters, l'héroïne, est vraiment tout à fait confortable. Mais pas grosse, plantureuse, tu vois. Hein. Et où son époux, Little Joe, qui est joué par le disc jockey Rochester, il a l'air d'un jockey.
C'est-à-dire pas vraiment épais, vous voyez.
Mais dans le film, elle rencontre un alligator, un vrai de vrai, qui est Bubbles, qui était un danseur à claquettes célèbre. Parce qu'évidemment, les danseurs à claquettes sont parmi les plus réputés des alligators, vu qu'ils font tout le temps du sport, ils sont minces, musclés et très beaux, généralement. Bill Robinson en est le prototype, et Bubbles l'était également. Et de ça, Louis Armstrong a fait un morceau très amusant, parce qu'il y a une dérive facile vers le couple à la Dubout, quand même.
Et alors ça s'appelle Big Fat Ma, and skinny, skinny ça veut dire mince, and skinny pa.
Je crois même qu'on peut aller plus loin. Là, c'est vraiment un couple presque caricatural, parce que Big Fat Ma, c'est quand même alors plus que confortable. Et skinny, ça veut même dire décharné, quoi. C'est un maigrichon.
Bon, en gros,
c'est un verre à tagneau.
En gros, il n'a que la peau sur les os.
Big Fat Ma and Skinny Pa gonna do a dance you never saw.
Que maintenant que nous avons bien parlé des vêtements du monsieur, il serait temps d'habiller la demoiselle.
Bien sûr. Alors, on va commencer par un truc un peu particulier. C'est un sous-vêtement. Un sous-vêtement qui a un drôle de nom, puisqu'on l'appelle Teddy Bear.
Ça, c'est de l'argot, hein, madame. C'était en fait...
Oui, mais Teddy Bear, en quelque chose qui n'est pas de l'argot, ça veut dire un nounours.
Ben, c'est un nounours, exactement.
Tout simplement. Et ce vêtement... Eh bien, on l'a appelé nounours. C'est le teddy bear, c'est un sous-vêtement féminin d'une seule pièce et qu'on portait dans les années 20. Alors, effectivement, on n'en a pas, nous, une image très très précise. Sauf que
dans un certain vieux film.
On pouvait peut-être voir ce genre de choses. Voilà. En tous les cas, un sous-vêtement.
Le morceau qui suit et qui a été fait en l'honneur de cette pièce de sous-habillement a été enregistré par Milt Buckner. Milt Buckner était un pianiste dont on a déjà parlé, pianiste et organiste, et qui était un personnage vraiment extrêmement pétulant, toujours plein d'imprévus, très très amusant. Et
tout petit, ressemblant un peu à une énorme grenouille.
Oui, il avait un côté batracien assez, assez marqué. Et il avait fondé, avec d'illustres inconnus, dont Ray Abrams au saxophone ténor, un petit groupement qui s'appelait le Bill Street Gang, qui était vraiment formé de joyeux de rire, et ils ont fait une très jolie séance d'enregistrement d'où nous extrayons ce
Teddy Bear.
Thank you.
sous-vêtement soutient la plupart du temps, eh bien les bas. Et les bas, oh là là, on fantasme là-dessus. Hein.
C'est toute une affaire.
Et là, c'est un morceau qui s'appelle « Shiny Stockings », c'est-à-dire les bas brillants, lumineux, oh là là, scintillants même.
« Shiny Stockings », c'est un morceau de Frank Foster, qui était un des saxophonistes ténors de l'orchestre de Count Basie, qui était également arrangeur et compositeur. C'est lui qui a composé et arrangé ce très joli morceau, qui est devenu d'ailleurs un standard très connu, et très agréable, et à jouer, et à entendre. Et puis, c'est un morceau qui laisse quand même de la place pour l'imagination, finalement.
le morceau suivant, nous allons l'habiller un tout petit peu plus. Hein. Elle avait ses sous-vêtements, elle avait ses bas. Ben maintenant, elle va voir sa jupe. Seulement, c'est une jupe qui n'est pas vraiment la jupe au mollet.
Pas du tout, même
aux chevilles, naturellement. Non. C'est une jupe très courte et à qui on a donné le nom de Chippy.
Là-bas, ça s'appelle une chippie, exactement. Chez nous, une chippie, c'est autre chose. Peut-être, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui porterait également des jupes courtes, je ne sais pas bien.
On ne sait pas si ça ne vient pas du français. Et chippie, ça veut dire jupe vraiment très, très courte. Voilà.
D'où, par extension, d'ailleurs, les chippies sont également les dames qui vivent de leurs jupes très, très courtes. Mais ça, c'est une autre affaire. Et il y a même une chanteuse de blues très connue.
Qui a pris ce nom-là.
Qui avait ce surnom, absolument.
Chippie Hill.
Et naturellement, à force de s'habiller comme ça pour attirer l'attention, on finit surtout par prouver au monde entier qu'on a le mal d'amour, finalement. On est vraiment très malheureux. Et ce Chippie Hill a justement enregistré un morceau qui se réfère à ça, puisqu'il s'appelle...
Love Sick Blues, c'est-à-dire le blues du mal d'amour.
Ce morceau est très intéressant parce que la chanteuse est accompagnée par le jeune Louis Armstrong à la trompette, qui était un fantastique accompagnateur
De chanteuse,
il ne l'a pas beaucoup fait par la suite, mais là, c'est une période où il a eu l'occasion de fréquenter pas mal de chanteuses de blues dans le studio de chez Columbia. Et il faut savoir que tout blues chanté comme ça, c'est une sorte de poème, c'est une histoire. C'est une histoire dans laquelle la chanteuse s'investit. Et comme eux, ils comprennent les paroles de ce qu'ils chantent, l'accompagnateur peut suivre l'histoire. Et en fait, il va jouer quelque chose qui se réfère aussi à l'histoire. C'est pas que de la musique. C'est un complément musical et poétique à une histoire racontée. On peut le dire comme ça, chère madame ?
Ça n'engage que toi.
Bon, enfin, c'est parce que ce genre de prestation est un de mes sports préférés. Chippie Hill et Lou Armstrong.
Alone, I'm all that blue.
avec la chippy girl, on vous a parlé d'une fille qui quand même se conduit pas très très bien dans la vie.
Quoique très élégante.
Quoique élégante. On a la femme rêvée par Duke Ellington.
Ah oui, là, l'univers ellingtonien contient des créatures extraordinaires.
Voilà, et c'est la sophisticated lady. Traduction française tout à fait facile, la dame sophistiquée. Alors ça, Duke Ellington, il craque.
Le morceau qu'il a composé sous ce titre est un très beau morceau, mais également très curieux, car ce morceau était devenu la spécialité de concert d'Harry Carney, qui physiquement ressemblait à un énorme nounours, et qui jouait du saxophone baryton. Et il faut bien dire que Harry Carney a joué du baryton comme personne n'en avait joué avant lui et comme personne n'en jouera plus jamais. C'est le seul musicien qui ait vraiment rempli un saxo-baryton. Il était absolument prodigieux. Et au concert de Duke Ellington, le Sophisticated Lady rituel d'Harry Carney était toujours très attendu. Et c'est quand même étonnant de voir la Sophisticated Lady mise en portrait au travers du son un peu râpeux du saxo-baryton.
C'est peut-être le comble de la sophistication.
Oui, c'est peut-être une malice ellingtonienne de plus. Ce cher Ellington est allé encore plus loin.
Il a fait une ode au parfum des femmes. Et en particulier, il y en avait une qui avait l'air d'avoir un parfum de lavande Pourtant, c'est relativement simple, mais ça a dû lui plaire infiniment.
Wellington était un homme à femme extrêmement diligent et raffiné. Ça, c'est très connu. Et d'ailleurs, je vais te dire, contrairement à ce que beaucoup de gens font maintenant, Wellington faisait passer les dames devant lui. Il s'effaçait pour qu'elle passe la première dans la porte. Écoutez-nous bien là, hein, ça doit se faire comme ça.
Alors, le morceau, c'est Lady of the Lavender Mist, c'est-à-dire la femme au parfum de lavande.
Ah, mais attends, il a encore donné une dimension de plus parce qu'il parle d'un brouillard de lavande. Une sorte de brume de lavande.
Une brume de lavande. Alors, c'est beau.
Ah oui, c'est un vrai visionnaire en matière de femme, ce sacré Wellington. Et c'est un très beau morceau.
Quand vous entendez le titre, le dernier titre que nous allons vous passer, c'est « Too tight ». Eh bien, cela veut dire « On ne peut pas trouver plus beau ». C'est les super beaux. L'homme, la femme, qu'est-ce qu'ils sont ? Superbes.
Qu'est-ce qu'ils sont ? Trop beaux, comme on dit maintenant.
Oui, ça se dit.
Mais je dis maintenant.
Ça s'est rattrapé, cette expression, quand un jeune vous dit « Oh, c'est trop !» Oh, il est trop celui-là, ça veut dire il est génial.
Eh bien, c'est exactement
ça. Eh bien, too tight, c'est ça que ça veut dire.
Et l'histoire de ce morceau est assez étonnante. Figure-toi que Louis Armstrong devait enregistrer avec son orchestre Hot Five, qu'on a entendu d'ailleurs tout à l'heure, et il avait composé pour ça 8 morceaux. Et puis finalement, il n'est pas venu. Il s'est fait remplacer. J'ai essayé de savoir pourquoi, je n'ai pas pu trouver. En tout cas, il n'était pas là.
Peut-être qu'il était malade.
Peut-être qu'il était malade, peut-être qu'il est parti en tournée, peut-être que si, peut-être que... On le saura peut-être un jour, mais en tout cas, là, on
ne
sait pas.
Comme on dit souvent, on ne sait pas tout.
On ne sait pas tout. Alors du coup, il s'est fait remplacer par un très bon cornettiste qui s'appelle George Mitchell. Vraiment très bon musicien, et comme beaucoup de bons musiciens, pas assez connu. Un des trompettistes favoris de Jelly Roll Morton pour ses séances également. Et il a fait venir en plus, pour faire bon poids, un saxophone alto, c'est-à-dire que c'est un orchestre à quatre voix mélodiques, ce qui n'est pas très répandu et ce qui est toujours gage, quand c'est bien fait, d'un très joli son collectif. Et voilà, avec Johnny Dodds à la clarinette et Kidori, en plus, et le fameux Johnny Saint-Cyr au banjo, plâtrier peintre de son état, mais roi du banjo de l'époque, fantastique guitariste banjoïste. Voici donc, pour terminer, ce...
Too tight.
C'est vraiment trop.
C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.